chose, pensai-je. J'ai juste dit « pauvre Hafez ». Sarah a immédiatement compris à quoi je faisais allusion et elle a ri. Puis nous nous sommes mis en route vers le cimetière de Montmartre et la compagnie rassurante des tombes. Chapitre 8. 4h30. Étrange les dialogues qui s'instaurent dans la géographie aléatoire des cimetières, pensais-je en me recueillant devant Heinrich Heine, l'orientaliste. Où sera le dernier repos du promeneur fatigué? Sous les palmiers du sud ou les tilleuls du Rhin? Rien de tout cela, sous les marronniers de Montmartre. Une lyre, des roses, un papillon de marbre, un visage fin penché vers l'avant, entre une famille marchand et une dame beuchère, deux tombes noires encadrant le blanc immaculé de Heine, qui les surplombe en triste gardien. Un réseau souterrain relie les sépultures entre elles. Heine aux musiciens Hector Berlioz et Charles Valentin Alcan, tout proches, ou à Alevi, le compositeur de la Juive. Ils sont tous là. Ils se tiennent compagnie, se serrent les coudes. Théophile Gautier, l'ami du bon Henri Heine, un peu plus loin. Maxime Ducamp, qui accompagna Flaubert en Égypte, et connut le plaisir avec Kitschikranim. Ou Ernest Renan, le très chrétien. Il doit y avoir bien des débats secrets entre ces âmes la nuit. Des conversations animées transmises par les racines des érables et les feux follets. Des concerts souterrains et silencieux auxquels assiste la foule assidue des défunts. Berlioz partageait son tombeau avec sa poule Ophélia. Heine était apparemment seul dans le sien. Et cette pensée, pour si enfantine qu'elle fût, me provoqua une légère tristesse. Sarah déambulait au hasard, se laissait guider par les noms du passé sans consulter le plan obtenu gracieusement à l'accueil. Ses pas nous menèrent tout naturellement à Marie Duplessis, la dame aux camélias, et à Louise Collet, qu'elle me présenta, si l'on peut dire. J'étais surpris par le nombre de chats qu'on trouve dans les cimetières parisiens. Compagnons des poètes morts comme ils l'ont toujours été des vivants. Un matou énorme, vert de gris, paraissait sur un beau gisant inconnu, dont le noble drapé ne semblait se soucier ni des affronts des pigeons ni de la tendresse du mammifère. Tous couchés ensemble, les chats, les bourgeois, les peintres et les chanteurs de variété. Le mausolée le plus fleuri, où se pressaient les touristes, était celui de la chanteuse Dalida, italienne d'Alexandrie, tout près de l'entrée. Une statue en pied de l'artiste, entourée de boules de buis, s'avançait d'un pas dans une robe transparente vers les badauds. Derrière elle, un soleil éclatant projetait ses rayons d'or sur une plaque de marbre noir, au centre d'un arc monumental d'un gris moiré. On aurait été bien en peine de deviner quelle déité vénérait la chanteuse de son vivant, à part peut-être Isis à Philae ou Cléopâtre à Alexandrie. Cette irruption du rêve oriental dans la résurrection des corps ne déplaisait sans doute pas à nombre de peintres jouissant de l'éternel repos au cimetière de Montmartre, dont Horace Vernet. Son sarcophage était très sobre, une simple croix de pierre qui contrastait avec la peinture foisonnante de cet orientaliste martial, ou Théodore Chassériaux, qui combine la précision érotique d'Ingres avec la fureur de Delacroix. Je l'imagine en grand conciliabule avec Gautier, son ami de l'autre côté du cimetière. Ils parlent de femmes, de corps de femmes, et discutent des mérites érotiques de la statue de la chanteuse alexandrine. Chassériaux a fait le voyage d'Algérie, vécu un temps à Constantine où il a posé son chevalet et peint, lui aussi, la chaste beauté mystérieuse des Algériennes.